Merci Seigneur. Voilà, on va lire le psaume 100. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Je voulais le lire entier puisqu'il nous exhorte à servir Dieu en le louant, en apportant dans ses portes des cantiques, en chantant dans ses parvis, etc., en le célébrant, en le bénissant, car il est bon et sa bonté dure toujours, sa fidélité de génération en génération. Une exhortation à servir le Seigneur. Dans l'Ecclésiaste, le livre d'Ecclésiaste, un peu plus loin, donc il est dit au chapitre 9 et au verset 8, on va le lire. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité, que Dieu t'a donnée sous le soleil pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Amen. C'est vrai que l'Ecclésiaste est très surprenant, Salomon, hein, très surprenant parce que des fois il dit des paroles très très bizarres et très honnêtes. Il dit voilà, écoute, tant que tu es sur la terre, que eh bien, quand tout temps tes vêtements soient blancs, veille à ce que tu sois propre. Et il ne parlait pas, je crois, juste des vêtements. Il parlait surtout le fait de ta tenue, de ton comportement. Que l'huile ne manque point sur ta tête. Et ça, ça nous parle de l'onction qu'on doit tous chercher à avoir sur notre vie. Comment Jésus se fait-il qu'il avait une telle onction? Parce qu'il était obéissant. C'est l'obéissance qui a fait qu'il avait une onction particulière. Et que nous aussi, nous puissions chercher à être oints d'huile. Mais Dieu ne met pas à côté les jouissances de la vie. Il est dit ailleurs que Dieu nous a tout donné pour que nous en jouissions. Et il dit là, jouis de la vie avec la femme que tu aimes, pendant tous les jours de la vie de vanité. Alors il ne dit pas que la vie ne sert à rien. Il dit que c'est vrai, la vie paraît à peu de choses comparée à l'éternité. Et puis c'est vrai qu'une vie, parmi toute la foule que nous sommes, ça pourrait être à œil humain, méprisable. Il dit que c'est vrai, comprend que la vie est courte et qu'il faut en jouir, il faut bien l'utiliser. Alors il dit tout cela, donc, car c'est la part dans la vie au milieu de ton travail. Avec ce que ta main trouve à faire, avec la force que tu as, fais tout ce que ta main trouve à faire. Vous connaissez cette expression ? Fais ce que ta main trouve à faire. Tout ce que ta main trouve à faire. Et là, il va dire quelque chose, il va dire, tu vois, ne remets pas demain le travail. Ne tarde pas, ne dis pas toujours plus tard, ne sois pas paresseux. Avec la force que Dieu t'a donnée, fais ce que ta main trouve à faire, ce que tu peux faire. Pourquoi ? Lui conçoit comme ça le séjour des morts. Il dit parce que dans le séjour des morts, il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans ce lieu où tu vas. L'air de dire, tu vois, la vie aujourd'hui, elle t'est donnée, profites-en parce que plus tard, ça sera trop tard. C'est ça que ça veut dire. Plus tard sera trop tard. Et une fois qu'on est mort, on ne peut plus agir, on ne peut plus faire ce que Dieu nous demande. Alors aujourd'hui, fais ce que Dieu te demande, fais ce que ta main aussi trouve à faire. Moi j'ai connu des personnes un jour où dans l'église on avait vraiment eu à cœur de distribuer des appels de la vie. Je ne sais pas si vous connaissez ce prospectus, et on avait acheté des appels de la vie, on disait voilà, on va les distribuer. Et un couple est passé à côté de moi et je leur ai dit tiens, est-ce que vous voulez participer à cette distribution? Ils ont dit oula. Il faut d'abord qu'on prie pour demander à Dieu s'il nous l'autorise. J'ai dit, je ne comprends pas. J'ai dit, mais vous savez qu'on donne des évangiles avec, il y a au moins la parole de Dieu. Oui, mais moi je veux faire que ce que Dieu m'a dit de faire. Alors il faut d'abord que je demande à Dieu si c'est sa volonté de distribuer des témoignages et la parole de Dieu. Je vous laisse le soin de juger si c'est ça vraiment que Dieu nous demande. Je crois qu'il y a des choses que Dieu nous dit, fais-le, ta main le trouve à faire. Imaginez que chez vous, vous marchiez et que d'un coup, vous voyez que de la nourriture était tombée parce que vous avez des enfants comme moi et qu'ils n'ont pas fait attention, ils ont mis des gâteaux de partout. Vous voyez ça, qu'est-ce que vous allez faire ? Seigneur, est-ce que je dois nettoyer ma maison ? C'est ça que vous allez faire ? Non. Vous allez prendre l'éponge, le balai, je ne sais pas, vous allez nettoyer ce qui a été sali. Si dans l'église, vous voyez une tache par terre, qu'est-ce que vous allez faire ? Seigneur, est-ce que je dois nettoyer cette tache par terre ? Mais non ! Vous allez prendre le balai, vous allez demander, est-ce qu'il n'y a pas un balai, est-ce qu'il n'y a pas une serpillère, une éponge, quelque chose, quelque part ? Vous allez prendre et vous allez le faire. Si vous avez à cœur la maison de l'Éternel, ça c'est toujours évident, tout dépend de notre cœur. Mais il y a des choses que Dieu nous demande, eh bien, de faire qu'ils sont tout simplement le fruit du bon sens. Le fruit du bon sens. Quand on aime Dieu, on aime son œuvre, on a à cœur le salut des âmes, on a vraiment à cœur l'œuvre de Dieu dans son ensemble, et du coup, des choses naissent dans notre cœur. Mais quelqu'un peut être arrêté, quelqu'un peut être apeuré, parce que dans son cœur, il dit « Oui, mais dans ma main, il n'y a pas grand-chose. » Ma main, elle est fragile, justement avec la force que tu as, mais moi, j'ai que peu de choses, un tout petit peu de choses. Et j'aimerais qu'on regarde à trois personnes qui n'avaient que peu de choses, mais que Dieu a utilisées pour faire des choses extraordinaires. Vous voulez ? La première, c'est Moïse. Qu'est-ce qu'il avait dans sa main ? C'est une question que Dieu va lui poser. Qu'y a-t-il dans ta main ? Je le lis pour vous. Exode chapitre 4, versets 1 et 2, Moïse répondit... Et dit, parce que Dieu lui dit qu'il a une mission à accomplir. Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main ? Il répondit, une verge, un bâton. Vous savez que Moïse a 80 ans, et il devait se déplacer, je pense, avec un bâton. Il se déplace avec un bâton, tout ça, et il dit, moi j'ai quoi ? J'ai juste un bâton. C'est comme un papy ou une mamie parmi nous qui dirait, mais j'ai qu'une canne. Moi j'ai qu'une canne. Et bien avec cette canne, on va faire des prodiges. Imaginez-vous la faire. C'est rien une canne, un bâton, une verge, c'est rien du tout. Et Dieu va lui dire, avec ça, tu vas faire des choses extraordinaires. Verset 17 du chapitre 4, « Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. » Et Jésus, juste avant, va lui dire, « Voilà, jette ce bâton par terre, jette ta verge par terre. » Il la jette et ça devient un grand serpent. Moïse, tout courageux qu'il est, il a peur, il s'enfuit devant le serpent, il nous est dit. Et Dieu dit, « Ouh, va, attrape-le par la queue. » Il va le saisir par la queue et il va redevenir une verge. Il dit, « Tu vois, ça, tu vas le faire devant Pharaon. » Il a rien d'autre qu'un bâton. Et avec ce bâton, Dieu va lui dire « va ». Et avec ça, tu feras des signes. Et tout ça, à chaque fois, Dieu va lui dire « tu lèves ton bâton, étends ta main ». Et quand il dit « étends ta main », Moïse, il comprend que ça veut dire « étends ton bâton, étends ta verge, il va le faire ». Et à chaque fois, il se passe des choses extraordinaires. Et vous savez que toutes ces plaies ont eu lieu parce que Pharaon a endurci son cœur. Il n'a pas voulu laisser le peuple partir. Et puisqu'il a commencé à endurcir son cœur, il est arrivé à un point de non-retour. Et c'est Dieu, après, qui a encore plus endurci son cœur. Comme quoi, il nous faut veiller à comment on écoute la parole de Dieu. Parce qu'à force de fermer notre cœur à la parole de Dieu, ça peut être un jour, si on va jusqu'à un certain point, Dieu qui ferme la porte de notre cœur, qui endurcit notre cœur de par tout ce qu'il fera comme prodige devant nous, et nous on ne voudra pas, ça va faire qu'une chose, endurcir notre cœur. Qui sait si demain, j'aurai encore l'occasion d'obéir à Dieu. Alors aujourd'hui, si j'entends sa voix, je lui obéis. Dans Exode chapitre 4, verset 20, il est dit que Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes, retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, « Vois tous les prodiges que je mets dans ta main, tu les feras devant Pharaon. » Toutes les plaies qu'on a vues, c'est ce que Dieu lui avait dit, avec cette verge, avec ce bâton, tu vas aller et tu vas faire tout ce que j'ai dit. Ce n'était pas un bâton magique, hein. C'est un bâton qui voulait parler de quelque chose. On va le voir. Moïse va encore faire autre chose. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va lever la verge devant la mer, il va la fendre en deux, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. C'est ce que Dieu va lui dire dans Exode 14, verset 16. Après que le peuple fut sorti d'Égypte, après toutes les plaies, après tous les signes qui ont été faits, Moïse va partir avec le peuple, et puis Pharaon va courser le peuple d'Égypte, parce qu'il dit, ouh là là, je les ai laissés partir, mais non, il faut pas, je vais les rattraper. Il part avec son armée, tout ça, et quand il se retrouve, le peuple d'Israël, entre la mer Rouge et entre le peuple de Pharaon, l'armée de Pharaon, Dieu fait une barrière de feu pour qu'ils ne puissent pas passer. Ils sont retenus comme ça, et Dieu parle à Moïse, il lui dit, tu vas frapper avec ton bâton la mer, elle va se fendre en deux, et le peuple entier pourra passer à pied sec. Ils sont passés à pied sec. Moïse a encore levé son bâton. La mer s'est refermée sur toute l'armée qui s'était mise à leur poursuite en traversant eux aussi la mer. Ils croyaient qu'ils allaient passer, mais non. Eux, ils ont été engloutis par la mer. Voilà, un miracle extraordinaire. Et Dieu a utilisé un signe au milieu de tout ça. Quelque chose d'insignifiant. La canne d'un papy. Une verge. Un morceau de bois. Et de quoi nous parle le bois, hein, si ce n'est la croix? Et peut-être que quelqu'un se dit, mais moi j'ai presque rien, vous savez, je suis tout jeune converti, ou ça fait des années, mais il ne s'est jamais rien passé d'exceptionnel dans ma vie, etc., etc. Je n'ai qu'une chose, c'est le salut en Jésus-Christ, la croix. Eh bien, ça suffit. Ça suffit déjà pour être un serviteur ou devenir une servante de l'Éternel. Déjà la foi dans l'œuvre de Jésus. Parce que dans n'importe quel service, le diable cherchera à nous décourager en nous faisant douter. Douter de Dieu, douter de toutes sortes de choses. Et la première chose qu'il veut remettre en question, c'est le pardon de nos péchés. Vous le savez, vous qui êtes chrétien aujourd'hui, on n'est pas parfait, même encore aujourd'hui. Eh oui, moi non plus, je ne suis pas parfait. Personne n'est parfait. Et à chaque erreur qu'on fait, le diable y vient et il veut nous décourager. Tu vois, tu as fait encore cette erreur. Tu vois, Dieu ne peut plus te pardonner, ça fait trop de fois que tu pèches, ça fait trop de temps que tu es chrétien et que tu pèches encore, etc. Vous savez, il vous rappellera même les anciens, et toujours pour vous décourager. Mais qui es-tu, toi, pour parler, etc. Moïse, il ne savait pas, il dit, oh, mais j'ai qu'une langue faible, j'ai une langue embarrassée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que certains croient qu'il était, comme on dit, bègue. Voilà. Est-ce que c'était ça? Est-ce que c'était autre chose? Dieu a pallié à ce problème, mais s'est quand même mis en colère pour son manque de foi. Que Dieu ne se mette pas en colère contre nous parce qu'on manque de foi, mais qu'au contraire on se souvienne dans l'œuvre de Jésus, de ce que Jésus a fait. Moïse, il a fait une chose, un bâton, pour délivrer un peuple immense. Quand on voit le nombre qu'ils étaient, malgré l'oppression, malgré les travaux durs, comment Dieu les avait bénis et avait accompli déjà le début de sa promesse. Quelque chose d'incroyable. Et je peux vous dire que Dieu a fait une promesse. C'est de sauver des hommes et de femmes de toute nation, de toute langue, de tout pays, de tout peuple, de toute ethnie même littéralement. Et il a besoin de nous. Il a besoin d'hommes, de femmes, de ses enfants qui vont se lever et croire que Dieu les appelle à eux aussi puisque Jésus lui-même a laissé une mission à ses disciples. Et Dieu n'a pas dit aller faire des membres d'église, aller faire juste des sauvés, aller faire des disciples. On est censé tous, nous qui sommes engagés avec le Seigneur par les eaux du baptême, être devenus des disciples. Et Jésus a dit à ses disciples, allez par toutes les nations. Mais je suis personne, j'ai que la croix, moi j'ai compris que la croix. Eh bien ça suffit déjà. Parce que c'est par la croix que Jésus sauve, que Dieu sauve. C'est par cette croix, l'œuvre de la croix, non pas juste les secondes ou les minutes ou les heures que Jésus a passées sur la croix, mais dès le début, dès le jardin de Gethsémané, et même sûrement avant, dès sa venue sur la terre, jusqu'à sa mort, mais encore après, jusqu'à sa résurrection, son apparition sur la terre et son élévation. Ça, il faut vraiment, son ascension, il faut vraiment qu'on comprenne que déjà ça, si on a compris que Jésus sauve, par le moyen de la foi, par grâce, par le moyen de la foi, eh bien c'est déjà merveilleux. On a déjà quelque chose à partager pour que le monde puisse être sauvé. Il est dit, les brebis reconnaissent la voix du bon berger. La seule chose qu'on a à faire, c'est rappeler sa voix, rappeler son enseignement. Jésus a parlé, il a dit, si quelqu'un est fatigué, qu'il vienne à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et quand quelqu'un a besoin d'être pardonné, qu'il vienne à Jésus. On a juste à dire ça. On n'a pas à l'expliquer, le prouver avec nos raisonnements à nous. On a à retranscrire les paroles de Jésus dans la Bible. Et ça va toucher les cœurs. Et ceux qui sont des brebis de Dieu vont reconnaître la voix. Et au temps peut-être convenable, un temps, parce que Dieu est patient quand même, ils vont reconnaître cette voix, ils vont connaître que c'est vraiment la voix du vrai Dieu, que c'est vraiment ce Jésus qui est venu, qu'il existe vraiment et qu'il est prêt à les pardonner. Ils vont accepter ce salut, ils vont être sauvés. Jésus, avant d'aller dans une ville, pourra dire « Il y a un peuple nombreux dans cette ville qui doit entendre ma voix. » Jésus sait déjà qui sera sauvé. Jésus sait déjà qui lui appartient avant même qu'ils entendent sa voix. C'est ce qu'il a dit. Et nous avons juste à prêcher sa parole, sans farfelu, sans foufou, comme quelqu'un dira, sans effets spéciaux, avec simplicité, et à chacun de la recevoir, à chacun de la croire, pour être sauvé. Il y a déjà la croix, et ça suffit. Ne croyez pas que vous n'avez rien dans votre main si vous avez la croix de Jésus. Eh bien, c'est déjà extraordinaire. La deuxième personne, c'est la personne de David. David, qu'est-ce qu'il a fait, tiens? Le roi David. Il a abattu Goliath. Goliath était un lilliputien. C'est ça? Qui était Goliath? Un géant. Vous connaissez, hein, depuis tout petit. Et cette histoire, on pourrait la relire. Je vous invite à le faire à la maison. Je ne veux pas prendre trop de temps. Dans 1 Samuel, au chapitre 17, 18, il est vraiment montré combien David arrive dans un champ de bétail. Il va voir ses frères, ses trois grands frères. Et il arrive. Et ils sont là en train de se mettre les deux armées, l'armée d'Israël dont faisaient partie ses frères. Ils se mettent en bataille. Il y a l'armée de l'ennemi, des Philistins qui se mettent en face. Et puis il y a un grand bruit. Tous y crient. Lui, il est là. Il voit ça. Il est venu apporter des fromages et de la nourriture à ses frères, et il entend d'un coup un homme qui sort de l'armée de l'ennemi, qui se moque du peuple d'Israël, qui se moque de leur Dieu, qui se moque d'eux, qui leur dit « Trouvez un homme qui vienne me battre ». Mais cet homme est particulier parce que il est géant, il fait 3 mètres de haut, un peu plus de 3 mètres de haut, il est énorme, il pèse un poids incroyable, son armure est hyper lourde, il a des armes exceptionnelles que personne ne pourrait porter, d'ailleurs rien que les armes de Saül, du roi de l'armée d'Israël, c'était trop lourd déjà pour David. Mais David est différent, il a la foi en son Dieu et il aime la renommée de son Dieu. Et il aime quand on honore son Dieu et il déteste quand on se moque de son Dieu. David aime Dieu, même s'il est juste un petit berger, un petit musicien de harpe. Quelque chose de méprisant aux yeux humains. Quelque chose de méprisant au jeu de Goliath. Quand il va le voir, il dit « Mais vous avez que ce petit enfant là, suis-je un chien pour que vous m'envoyiez cet enfant ?» Vous lirez, c'est exactement les paroles qu'il dit. Et David, il dit « Toi, tu viens avec ta lance, ton javelot, tout ça, ton bouclier, qui fait peut-être deux fois ma taille, je ne sais pas comment ça se passait. » Et il dit « Moi, je viens au nom de l'Éternel. Moi, je viens au nom de l'Éternel. » Et David, il va prendre quoi pour aller combattre Goliath? Une fronde, quoi d'autre? 5 cailloux, 5 pierres, et pas n'importe lesquelles. 5 pierres polies dans le torrent. Très important. 5 pierres polies, une fronde, qu'est-ce qu'il a d'autre? Un bâton. Lui, il avait le bâton. Et quoi d'autre? Une gibecière. Voilà, une poche sur lui. Il va jusqu'avec ça. Mais qu'est-ce que c'est une gibecière de berger? C'est précisé de berger. Une gibecière de berger, il était blond, il devait être magnifique, il devait être gentil, quoi. Face à ce géant Goliath, un guerrier qui devait avoir des cicatrices partout, lui, il vient, jamais fait la guerre. Il joue de la harpe. Voilà, je fais de la harpe. Quoique, il terrassait le lion et l'ours quand même. C'est comme ça déjà qu'il défendait son troupeau. Mais il vient là, tout beau, tout gentil. Mais avec une foi ferme, il prend quoi? Juste ce qu'il sait faire. Il a sa fronde, sa gibecière, il a un bâton, il est écrit qu'il part avec un bâton, et il prend 5 pierres polies dans le torrent. Des pierres qui ont été dans ce torrent, et l'eau a passé, l'eau a repassé, ces pierres ont été bien polies, elles sont bien rondes pour être bien utilisées par une fronde. Et il va s'avancer vers ce géant qui se moque de lui, il va se mettre à courir contre lui, moi j'aurais couru dans l'autre sens. Lui, il court vers lui, et il court, il secoue, il tourne sa fronde comme ça, fou, et il lance. Une pierre a suffi sur les 5 qu'il a pris. Elle arrivait dans le front du géant, il est tombé, et il est mort. Et David va dire, sans l'épée, j'ai terrassé le géant, sans épée. Et après, il prend l'épée du géant, alors qu'il est déjà mort, et là, il lui coupe la tête. Voilà. David va terrasser le géant avec des choses insignifiantes. Face à ce géant qui avait un casque, il nous est dit le poids de ce casque. Qui lui cru qu'il arrive à viser au bon endroit, que ça tombe au bon endroit? Dieu a conduit la chose. Qui eût cru que ce petit bonhomme allait arriver à terrasser ce grand, qui avait pourtant un homme qui était devant lui pour tenir son bouclier, tellement le bouclier était grand, et tellement cet homme était grand. Et David va arriver à terrasser ce géant. Et moi, quand je vois ce bâton, on sait maintenant ce que ça veut dire. Mais il avait aussi une fronde, quelque chose qui fait tourner, qui donne de l'élan à la pierre. Et moi, ça me fait penser à la foi, parce que sans foi, il n'y a pas de force. Il va donner de l'élan, comme de la foi qui est là. Et les pierres polies dans ce torrent me parlent d'une parole de Dieu, comme une promesse pour le moment opportun. quelque chose de particulier, quelque chose qui va être utile à ce moment-là. Une parole tirée, une promesse tirée dans la parole dans son ensemble. Et une parole inspirée puisque le torrent, l'eau, nous parle du Saint-Esprit. Venez à moi, et si quelqu'un a soif, venez à moi, des fleuves d'eau vive. Le torrent nous parle d'une eau vive, pas une eau stagnante. Une eau qui sent mauvais parce qu'elle est là depuis longtemps. Une eau vive, une eau vivante, une eau à propos. Inspirée, une parole inspirée. Et cette promesse qui est là, peut-être que ça nous parle d'un verset qu'on a lu, qu'on a relu, qu'on a re-relu, et que le Saint-Esprit, au moment opportun, nous rappelle. Pour une situation qui paraît trop grande à nos yeux, insurmontable. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit rappelle à notre esprit une parole à propos. Et on est là et on va pouvoir l'utiliser contre cette situation, cette circonstance, ce géant, cette moquerie qui est là devant nous. Nous, on va rester ferme parce qu'il y a une promesse de Dieu pour moi dans sa parole qui m'a été donnée et qui m'a été rappelée. Et peut-être qu'on va pas l'avoir pour le moment précis, peut-être qu'on l'a eu bien avant parce qu'on aura déjà médité la parole. J'ai dit qu'il a pris 5 pierres parce que, alors qu'il en a eu besoin que d'une. Et quand on regarde dans toute l'histoire de David, on remarque dans la parole de Dieu, entre autres, dans 2 Samuel chapitre 21 verset 15 à 22, ou dans 1 Chronique chapitre 20 verset 4 à 8, qu'il y a eu 4 autres géants dans la vie de David. L'un d'entre eux était frère de Goliath. Et que les 4 autres géants, avec Goliath, ça fait 5. C'est comme si au premier moment, comme si c'était prophétique, certains vont croire au hasard, moi j'y crois pas. C'est comme si David, à ce moment-là, a fait des réserves pour le futur. C'est comme si David, à ce moment-là, a reçu des paroles pour plus tard. Une pour le moment opportun, mais aussi 4 autres pour des moments futurs. Parce que des difficultés, on en a aujourd'hui, et probablement qu'on en aura demain. Dans le futur, on aura encore des difficultés. Il ne faut pas prendre juste pour aujourd'hui. Il faut méditer la parole, il faut recevoir de Dieu, comprendre les choses de Dieu, poser des questions pour qu'on nous les explique à l'avance parce qu'un jour viendra l'épreuve. Est-ce qu'on aura la force de résister si on n'a pas déjà pris des forces dans la parole de Dieu? Je ne crois pas. Alors très important de faire un peu comme ce jeune David qui était prêt. Un petit enfant, un bâton, une fronde, une pierre, une petite sacoche. Cette gibecière de berger, Ça me parle vraiment, moi, du cœur de berger. Puisqu'on est appelé pasteur en formation, et comme un cœur qui reçoit, qui engrange les promesses de Dieu, qui engrange des paroles de Dieu, qui engrange de la connaissance sur Dieu, inspiré de Dieu, quelque chose vraiment qui nous a été révélé. Vous savez, il y a certains messages, on les prêche, ça peut être une étude bien faite, très correcte, mais je crois aussi qu'il y a des messages qu'on reçoit de Dieu vraiment dans la prière. On voulait prêcher sur quelque chose, puis d'un coup on prêche sur autre chose, parce qu'on sait que Dieu sait, pardon, qu'au moment, c'est le message qui est opportun pour ce moment-là. Et vraiment que notre cœur soit comme cette gibecière de berger, qui reçoit les promesses de Dieu, qui les garde bien pour les jours futurs, pour le moment maintenant, peu importe, mais qui reçoit parce qu'il est ouvert. Et la troisième personne dont je voudrais parler, c'est un autre jeune garçon. Peut-être que personne, n'avait remarqué ce jeune garçon avant. Peut-être que ce jeune garçon était passé inaperçu. Peut-être que cette histoire, si elle n'avait pas été celle qu'elle a été, avec cette importance, ce jeune garçon, il aurait jamais compris qu'il avait été important ce jour-là et qu'il avait fait une chose importante. Dans Jean chapitre 6, verset 1er, on peut le lire ensemble. Jean 6, 1, il nous est parlé d'une multiplication des pains. Vous connaissez ce texte? La multiplication des pains. La première, puisqu'il y en a eu deux. Jean chapitre 6, verset 1 à 13. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples, or la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en eût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua aux disciples et les disciples à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ce texte nous parle de ce que Jésus a fait. Il a multiplié 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 hommes, sans les femmes et sans les enfants. Je sais pas si on imagine la scène, j'aurais aimé être là, encore une fois. Pour tout ce qui se passe dans la Bible, j'aurais aimé être là. Sauf des fois les guerres, hein. Il y a certaines guerres, on veut pas être au milieu. Mais là, j'aurais aimé voir ça. Jésus, il enseigne, il est là avec ses disciples et tout ça. Et puis, d'un coup, une foule vient à lui. Parce que Jésus accueille tout le monde. Et ils viennent à lui. Et Jésus est compatissant, il les regarde et il dit, comment est-ce qu'on va faire? Tiens, il lance, comment on dit, c'est pas un piège. Il lance un défi à son disciple. Il dit, tiens, comment est-ce qu'on va faire pour les nourrir? Combien de pains est-ce qu'on a, etc. Oh, il dit, mais même si on achetait 200 deniers de pain, on n'aurait pas assez pour nourrir tout le monde et pour que chacun en ait un peu. Et il va dire, ah, combien on a de pains de poisson? Et bon, il y a juste un jeune homme là, il a 5 pains et il a 2 poissons. Ce qui me surprend, c'est qu'il n'y a pas besoin de les cuire. Il n'y a pas besoin de les préparer. Non, mais c'est vrai. J'y ai réfléchi à ça. Il est où le bois? J'ai dit, mais il a brûlé. Il a brûlé parce qu'il a fallu cuire le pain et il a fallu cuire le poisson. Ça ne se mange pas cru. Et ce jeune homme avait préparé, peut-être pour lui, il s'était peut-être dit, oh, parce que 5 pains de poisson, ça fait beaucoup pour un jeune garçon. Il avait peut-être dit, ben voilà, moi j'ai pour moi, et puis je vais en préparer un petit peu pour d'autres, au cas où quelqu'un oublie, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait pensé. En tout cas, ce jeune homme est disposé à partager le peu qu'il a face aux si grands besoins. Et dans notre monde entier, les gens ont besoin de recevoir une nourriture spirituelle. Dans votre foyer, votre femme, votre mari, vos enfants ont besoin de recevoir une nourriture spirituelle. Dans votre travail, vos collègues, votre entourage, même s'ils ne le savent pas encore, ont besoin de recevoir une nourriture spirituelle. Que ce soit des pains, c'est-à-dire l'enseignement de Jésus, que ce soit des poissons, c'est-à-dire le témoignage de personnes qui ont vécu des choses, on a besoin de nourriture spirituelle. Et une de nos sœurs de cette assemblée, cette semaine, me disait, voilà, je suis allée faire mes courses, quand je sors du magasin, je réalise qu'un des produits a un défaut, je retourne pour le faire changer, je le fais changer, et quand je sors, je vois une femme en train de pleurer sur les escaliers du magasin. Mais pleurer, au point que ça m'a surpris, j'ai pas pu la laisser comme ça, je lui ai demandé ce qu'elle avait. Et cette femme, elle a dit, mais voilà, je viens de me faire agresser sur le parking. Je me suis fait agresser par un homme, il m'a cassé le rétro, il m'a hurlé dessus, il m'a cassé une partie de la voiture, une vitre je crois, il m'a fait peur, il m'a menacé, je sais pas s'il y a des caméras, je suis rentré pour me protéger, mais je voudrais pouvoir faire quelque chose, porter plainte, etc. Parce que voilà, ça va pas. Et bien cette sœur de cette assemblée, elle a dit, bah, écoutez, je vais venir avec vous, je vais vous aider. Et elle a dit, ah bon, mais c'est gentil, mais je veux pas. Si, je vais vous aider, vous inquiétez pas. Parce qu'elle a eu à cœur cette femme. Et elle l'a menée dans toutes les démarches, etc. Et au moment de sortir, elle a dit, ben, venez avec moi à ma voiture. Ok, d'accord. Et elle est venue. Et elle a dit, mais comment ça se fait que vous êtes si gentil? C'est pour ça que je vous invite à ma voiture. Et elle lui dit, voilà, elle lui a sorti un pan de code. Vous savez, les numéros spéciaux avec des témoignages. Elle lui a sorti un évangile. Elle lui a dit, ben, tenez, vous connaissez l'église? Elle dit, ben, écoutez, moi, je suis allé qu'à un mariage à l'église de Muret. Pour vous dire. Et j'ai une amie qui va à cette église à Muret. Comme par hasard. Et moi, je ne savais pas, je ne sais pas trop. J'ai bien lu la Bible petite, mais je ne sais pas trop et tout. Et dit, en plus, vous ne savez pas quoi? Mon mari, ça fait 30 ans qu'on était mariés, il vient de me divorcer. Il m'a laissé avec 4 enfants. Et je ne sais pas comment je vais faire. Et bien, cette sœur, elle a dit, vous voyez, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Et je sais qu'aujourd'hui, Dieu vous attend. Parce que Dieu veut vous bénir et vous aider. Et qu'importe votre déception, qu'importe votre difficulté, le Seigneur veut être là pour vous. Il est un bon berger, il est écrit. Vous le verrez, c'est un évangile de Jean. Regardez, il dit « Je suis le bon berger », etc. Elle ouvre l'évangile avec elle. Cette femme pleure et elle lui dit merci. Et elle rentre. Et cette sœur l'appelle le soir puisqu'elles avaient échangé le numéro. Est-ce que c'est bon tout ça? Elle laisse un message parce qu'elle n'a pas eu. Et l'autre la rappelle et lui laisse à son tour un message en disant « Merci pour tout ce que vous avez fait. Ça va bien, je suis déjà en paix. Et j'ai recommencé à lire la Bible. » Et je vais aller à l'église. Vous savez, des fois, on n'a pas grand-chose, on n'a pas compris grand-chose, on ne connaît pas beaucoup de versets de la parole de Dieu. Et on a un témoignage, peut-être qui paraît tellement simple. Mais ce qu'on a, partageons-le. Partageons-le. Vous savez qu'un évangile dans votre voiture, oh, c'est comme petite portion de la parole de Dieu. Eh bien, ça suffit, donnez-le. Ça peut toucher un cœur. Ça peut correspondre à un besoin. Qu'as-tu dans ta main? Une verge. Ben avec ça, tu vas délivrer un peuple immense. Qu'as-tu dans ta main? J'ai 5 pierres. Avec ça, tu vas terrasser 5 géants dans ta vie. Qu'as-tu dans ta main? 5 pains, 2 poissons. Avec ce que tu as, va. J'ai relevé un verset. Dans Juges chapitre 6, verset 14, vous connaissez l'histoire de Gédéon, cet homme qui dit « Je suis le plus petit dans la plus petite famille », etc. Lui, il n'était pas orgueilleux. Et ben, Dieu va lui dire, l'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Et vous lirez toute la suite comment Dieu l'a utilisé malgré sa petite force, mais parce que Dieu était avec lui, tout simplement. En vrai, la question qu'on pourrait se poser, ce n'est pas « Qu'as-tu dans ta main ?» Aujourd'hui, dans notre main, vous n'avez peut-être qu'une simple Bible. Eh bien, c'est déjà grand. C'est très important. Peut-être que vous avez surtout des rides. Parce que vous avez beaucoup travaillé dans votre vie, parce que l'âge a passé. Peut-être vous avez des cicatrices, parce que la vie vous a blessé. La question la plus importante, ça serait plutôt, qu'y a-t-il dans ton cœur? Jésus est-il dans ton cœur? S'il n'y est pas, Jésus veut rentrer dans ton cœur. Demande-lui pardon pour tes péchés. Il est mort à la croix pour effacer tous ses péchés et t'ouvrir les portes du ciel, t'accompagner dans tous les jours de ta vie pour te faire faire les bons choix et que tu lui plaises et que tu puisses entrer dans le ciel à cause de ton obéissance pour garder le salut qu'il t'aura offert gratuitement. Mais si Jésus est déjà dans ton cœur, eh bien alors tu as tout ce qu'il te faut pour être un serviteur, une servante de Dieu. Et si Dieu t'a appelé, ne remets pas en cause cet appel. Dieu t'appelle et il va jusqu'au bout de l'appel. Il est avec toi et c'est ça le plus important. Sois avec lui tous les jours de ta vie. Suis-le. Et si Dieu te dit, sois un témoin dans ta famille alors que personne ne croit, sois-le. Le Seigneur va être avec toi et va t'aider. Il va te donner les mots à propos pour que ta famille puisse réfléchir à son salut et faire le bon choix. Et le dernier verset promis, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7, une partie c'est, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Vous connaissez ce verset? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Le contexte nous parle de l'orgueil. Peut-être quelqu'un dit, oui, moi j'ai plein de dons, moi j'ai plein de forces, j'ai plein de versets, j'ai plein d'expérience. Mais qu'as-tu que tu n'aies reçu? Alors t'enorgueillis pas. Et à l'inverse, si on a reçu quelque chose, même si c'est petit, n'est-ce pas pour qu'on l'utilise? Pour la gloire de Dieu? Nous qui avons fait vœu d'obéissance, vœu de service à Dieu, de servitude à Dieu, eh bien, accomplissons notre vœu devant l'Éternel afin qu'il puisse, eh bien, approuver notre vie et nous utiliser pour le salut d'autres. Amen. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur encore pour ta fidélité, ta grâce et aussi Seigneur ce privilège que tu nous fais encore aujourd'hui de nous solliciter pour qu'on soit à ton service. Attentif à ta voix, faisant ce que tu nous demanderas de faire, car nous savons que tout ce que tu nous dis de faire peut que produire de bonnes choses pour sauver les âmes, pour sauver notre propre vie, pour sauver ceux que nous aimons, ceux qui nous entourent, et peut-être pour nous arracher à des pièges, à des défauts, à ce qui pourrait nous perdre et surtout à l'enfer. Merci de nous délivrer de tout péché pour que notre conscience soit réellement pure et que nous puissions marcher dans un plein service efficace pour toi et approuvé, toi confirmant ta parole dans nos vies et dans notre obéissance. Merci pour toutes ces choses et que ta volonté soit faite dans nos vies, règne dans nos vies. Aide-nous à ne pas minimiser ce que tu nous as donné, ce que nous avons déjà reçu de toi et aide-nous à avoir un cœur grand ouvert pour faire des réserves en prévision de ce qui sera au futur, des combats futurs ou des besoins futurs que nous rencontrerons ou chez qui tu nous enverras pour pouvoir l'exhorter et l'aider dans ses difficultés. majesté, car devant toi, aucun géant ne tient, car tu es plus grand que tous les géants. Amen.